Chapitre 23. À son arrivée, Gabriel avait dû subir la prise des empreintes et le prélèvement de ses effets personnels, dont le lacet avec sa clé. On lui avait plaqué un écouvillon à l'intérieur de la joue pour l'ADN, et un médecin l'avait ausculté, déshabillé en partie sous l'œil attentif de Paul. Le praticien n'avait soupçonné aucune fracture ni décelé aucune blessure grave. La Mercedes, elle, avait été rapatriée sur le parking de la brigade. Un avocat commis d'office ne se pointerait pas avant le lendemain matin pour l'audition. Depuis plus de 3 heures, Gabriel ruminait entre les 4 murs d'une des 2 cellules de garde à vue. Comme dans l'ancien temps, une planche en bois en guise de banc ou de lit. Une porte métallique avec une trappe en plexiglas, seul contact avec le monde extérieur. Et personne pour venir le renseigner. Combien de délinquants, de chauffards, de tibourés avait-il lui-même enfermé dans ce trou? Aujourd'hui, il se retrouvait du mauvais côté de la porte. Il massa sa pommette gauche gonflée, encore sous le choc de sa découverte. Eddie Lecointre allait devoir justifier la présence du pendentif dans son sous-sol. Malgré les événements, Gabriel avait confiance en Paul et n'arrivait pas à lui en vouloir de l'avoir coffré. Il lui avait sans doute évité le pire. Il était un excellent enquêteur, habile et pointilleux. Il saurait faire craquer le colosse. Il ferait éclater la vérité. Son ex-coéquipier vint déverrouiller la porte juste avant 22 heures. Ses traits étaient tirés, ses cheveux en pagaille. 2 pierres d'onyx brillaient au-dessus de lourdes poches de part et d'autre d'un nez aiguisé comme une lame. Gabriel ne ressentait plus le choc de la première fois en le voyant. Il s'habituait à cet homme bouffé par l'âge, mais qui, au fond, avait dû demeurer le militaire acharné d'autrefois. Un tête-à-tête, toi et moi, sans avocat, pour nous coller au basque, comme 2 anciens collègues qui un jour se sont respectés, ça te branche ? Sans un mot, Gabriel le suivit. Ils remontèrent en silence au rez-de-chaussée. Les bureaux s'étaient vidés. Gabriel remarqua que l'un des néons du plafond était resté éteint. En d'autres circonstances, il aurait souri. Le tube fluorescent était déjà défectueux dans ses souvenirs et faisait partie de ces petites choses qu'on ne réparait pas. Plus loin, dans la kitchenette, Louise patientait devant une bouilloire tête baissée. Gabriel éprouvait une douleur profonde chaque fois qu'il l'apercevait. Il s'attendait à voir surgir Julie à ses côtés. « Où est Lecointre ? » lança-t-il en arrivant au bureau de Paul. Ce dernier lui demanda de s'asseoir. Gabriel nota la présence d'épais dossiers poussiéreux à gauche de l'ordinateur. Ceux de l'affaire vraisemblablement ressortis du placard. Cette fois, le capitaine n'avait pas pris la peine d'ôter les photos du tableau blanc. Elles étaient alignées à la perfection, formant une espèce de damier impeccable. Gros plan du visage défoncé. Des hématomes sur les cuisses. Des tatouages. Vue plus large montrant le corps allongé sur les galets. Un oiseau mort sur la jambe droite. Gabriel en était persuadé. Paul voulait qu'il les voie. Il est dehors. Paul venait de s'installer face à lui. Il tendit une main autoritaire avant que Gabriel ait le temps d'ouvrir la bouche. C'était le deal pour qu'il ne porte pas plainte contre toi pour coups et blessures. Un deal? Tu deals avec cette ordure? Reste ta violation de domicile sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, mais je parlerai au procureur. Ta perte de mémoire, le fait que tu n'étais plus tout à fait toi-même, tu t'en sortiras avec un simple rappel à la loi. Évidemment, je ne ferai pas mention du marteau avec lequel tu comptais sans doute lui fracasser le genou. Lequel ? Le gauche ou le droit, cette fois ? Gabriel évoluait forcément dans un cauchemar. Paul pointa le tableau du pouce. Les analyses ADN du cadavre de la berge nous sont revenues en début de soirée, il ne s'agit pas de Julie. La victime n'est pas fichée et à ce stade de l'enquête, on ignore toujours son identité. Gabriel serra le poing contre ses lèvres. L'espoir était encore permis. Infime, pourtant bien là. Ça ne résout rien, mais sache que Corinne était soulagée, elle aussi, poursuivit Paul. Enfin une petite bouffée d'oxygène au milieu d'un nuage de souffrance, on va dire. Parce que rien ne pourra plus vraiment l'apaiser. En tout cas, elle voulait que tu sois rapidement mise au courant. C'est chose faite. Gabriel hocha doucement la tête. Merci. Ouais, ça en fait des merci depuis ton retour, t'as pas l'impression ? Du dos de la main, il chassa un peu de poussière d'un des dossiers. Les écouvillons d'ADN relevés sur le corps maintenant. Là, c'est plus complexe. Le sperme prélevé dans le vagin n'a rien donné et appartient à un individu inconnu de nos fichiers. Autrement dit, et au cas où il subsisterait dans ta tête le moindre doute, Eddie Lecointre n'a rien à voir avec ce crime ignoble. Il n'a pas violé cette femme. D'ailleurs, quand tu lui es tombé dessus, il rentrait du cinéma. Il avait encore son ticket sur lui. On vérifiera. Mais s'il était là-bas, il ne pouvait pas être à la centrale hydroélectrique. On a quand même profité de ton intrusion pour fouiller chez lui, tu penses bien. C'était l'occasion. Évidemment, on n'a rien découvert, hormis quelques DVD porno. Rien de méchant. Paul se retourna aux trois quarts. On a aussi décelé de l'ADN sous les ongles et sur les paumes de la victime. Elle s'est défendue comme elle a pu. Elle a griffé son agresseur profondément puisqu'il y avait de la peau et du sang. Ce même ADN se retrouve au niveau d'une ecchymose entre les cuisses. Le hic, c'est que cet ADN, inconnu des fichiers lui aussi, ne correspond pas à celui du sperme. Gabrielle inclina la tête, pas certain de tout comprendre. Elle aurait eu affaire à deux individus ? Paul secoua la tête. Dans le cas d'un viol, on aurait dû prélever le matériel génétique du violeur sur l'ecchymose. C'est lui qui emploie la force pour pénétrer sa proie. Enfin, logiquement. Une tierce personne l'aurait peut-être maintenue aux chevilles, à la limite, mais elle n'aurait pas laissé de traces à cet endroit-là, si proche de l'appareil génital. Et divers éléments que je ne t'exposerai pas ici me font rejeter l'hypothèse du double viol. Je dois t'avouer que j'ai du mal à saisir. Je commence à avoir une théorie là-dessus que je garde pour moi pour le moment. En tout cas, les analyses se poursuivent, on verra la suite. Concernant les tirs d'armes à feu responsables de la mort, les retours des culis indiquent des balles de calibre 7,65, moins répandues que le 9 mm, mais les balisticiens n'ont pas pu en tirer grand-chose. Il décrocha une photo du visage en bouillie et l'observa. Pour l'instant, on en est au point mort sur l'identité de la victime. Malgré les articles de Chamarlène dans le journal local et les émissions de radio du coin qui ont parlé de la découverte, personne n'a signalé la moindre disparition. Cette femme n'est probablement pas de la région. Et le pendentif ? Lança Gabriel, recentrant la discussion sur ce qu'il considérait comme un indice majeur. Comment Lecointre pouvait posséder le bijou que ma fille portait le jour de son enlèvement ? Paul posa le cliché devant lui. Ah, le pendentif. J'allais y venir. Je l'ai confié au labo en le rattachant à ta violation de domicile. J'ai notifié que cet objet se trouvait dans ta poche, tentative de vol. C'était le seul moyen d'obtenir une recherche ADN en bonne et due forme. Enfin, c'est un bidouillage interne, personne n'ira mettre le nez là-dedans. Si Julie a porté ce pendentif, on détectera peut-être son matériel génétique, même après des années, à condition qu'il n'ait pas été nettoyé. En tout cas, d'un point de vue purement objectif, rien n'indique actuellement que ce bijou est celui de ta fille. Toi, tu oses dire une chose pareille ? Paul écrasa ses mains sur ses tempes, qu'il massa. On vit à l'époque de la preuve, Gabriel. Les aveux, les suppositions, toutes ces conneries d'approximation qu'on faisait avant, c'est terminé. Ta petite sauterie de ce soir a de quoi foutre en l'air n'importe quelle procédure judiciaire qu'on intenterait à l'encontre de Lecointre. Il pourrait par exemple affirmer que c'est toi qui es venu avec ce bijou et l'a déposé dans son tiroir pour l'incriminer. Ce genre de truc, tu vois. Mais il n'est même pas allé jusque-là parce que ce mec, il est brut de décoffrage. Tu veux que je te livre sa version sur l'origine de ce pendentif ? À ton avis ? Paul tendit le cou. Louise venait de se rasseoir dans le bureau voisin. Il poussa un soupir. « Je ne comprends pas pourquoi elle ne rentre pas se coucher comme les autres. Regarde-la, avec sa tisane à la verveine ou je sais pas quoi. Elle a à peine 29 ans. Il y a 3 mois, elle m'annonce qu'elle fréquente un type. Je me dis, enfin, je suis content. Et ce type, tu sais qui c'est ? Le fils esquimet, le mec des pompes funèbres, celui qui traîne dans nos pattes à chaque suicide ou vieux qui trépasse. » L'assistant officieux du légiste. Paul alla baisser les persiennes. Putain, elle a un attrait pour le morbide, c'est pas possible autrement. Je croyais qu'avec l'âge, elle et moi, on se rapprocherait un peu. Je ne sais pas. C'est comme si elle m'avait toujours reproché la mort de sa mère, de ne pas avoir fait le nécessaire. C'était une putain de sclérose en plaques, qu'est-ce que j'y pouvais ? Gabriel ne trouva rien à répondre à cela. Paul eut alors un haussement d'épaule. Enfin bref. Pour en revenir à nos moutons, Lecointre dit qu'il t'aurait croisé dans les couloirs de l'hôtel de la Falaise hier matin et que tu ne l'aurais pas reconnu. C'est vrai ? Gabriel acquiesça, les sourcils froncés. Lui, il t'avait parfaitement reconnu malgré... Il agita une main vers sa chevelure. Selon lui, tu semblais à l'ouest. Tu croyais avoir dormi dans la chambre 29, mais en fait, tu avais passé la nuit dans la 7, sous l'identité de notre fameux Walter Guffin. Où tu veux en venir ? Il détesta le regard que Paul lui adressa à ce moment-là. Celui du joueur de poker qui abat sa dernière carte et rafle la mise. Il raconte que c'est en nettoyant ta chambre, la 7 donc, qu'il a trouvé ce bijou.